franceinter.fr.
Et c'est l'heure de la revue de presse avec Pascal Dervieux. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous.
Alors peut-on, doit-on faire la fête en ces périodes d'angoisse et de violence? La question transpire, dites-vous, dans toute la presse française ce matin.
Oui, elle est posée en clair ou en filigrane, ça dépend, mais c'est en effet l'une des grandes interrogations de cet été en France. Le Monde, à sa une, passe en revue la liste des festivités dites à risque qui auront été annulées. En fait, la liste n'est pas si longue. Annuler ou maintenir une manifestation, cela fait partie des décisions difficiles à prendre pour les élus, souvent livrés à eux-mêmes face à leurs responsabilités. C'est ce que souligne Jacques Fortier dans son éditorial des dernières nouvelles d'Alsace ce matin. Mon confrère reprend les propos du préfet du Nord, Michel Lalande, pour illustrer l'équation devant laquelle se trouvent tous les responsables de l'ordre public à un degré ou à un autre. Je préfère affronter la colère de ceux qui perdent une référence, peut-être qui perdent de l'argent, qu'affronter la colère de ceux qui perdraient un enfant, a dit le représentant de l'État dans le département du Nord. À chaque fois, relève l'éditorialiste des DNA, à chaque fois qu'il y a des voix sincères pour dire que le maintien est un devoir de résistance, que la peur est une mauvaise conseillère et que l'annulation est une défaite face à la barbarie. Et puis d'autres, tout aussi sincères, pour affirmer que le risque est trop élevé, qu'on ne joue pas avec la vie humaine. Chacun plaide, pèse, argumente, poursuit Jacques Fortier, mais le plus souvent, c'est un homme ou une femme seul qui tranche. Des choix cornéliens qui font prendre la mesure de la responsabilité confiée par le suffrage universel. L'éditorialiste du quotidien de Strasbourg conclut « La politique n'est pas qu'un terrain de jeu du pouvoir, elle est aussi le lieu, parfois, du choix moral. » Un choix moral, nous le disions hier en parcourant la presse du Nord, qui bénéficie d'un très large soutien, si l'on parle de la décision de Martine Aubry, d'annuler la braderie de Lille. Ce qui n'empêche pas que certains ne peuvent se résoudre à voir un tel rassemblement populaire gommé par un simple arrêté municipal. Alors, et c'est la Voix du Nord qui nous l'apprend ce matin, sur les réseaux sociaux, des appels se multiplient en faveur de manifestations de remplacement pour ce premier week-end de septembre. Le quotidien de Lille nous explique que des milliers de personnes déjà ont adhéré à l'idée d'apéros géants dans le centre-ville, par exemple, histoire de marquer le coup de ne pas céder devant les terroristes.
L'annulation de manifestations comme celles-ci sont en fait un coût moral, elles ont aussi un coût économique.
Oui, je cite à nouveau Le Monde qui s'attarde sur les conséquences de la décision de Martine Aubry sur le commerce local, sur les chiffres du tourisme aussi. Thierry Grégoire, l'un des représentants de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, craint qu'au-delà de Lille, ce ne soit l'ensemble du tourisme national qui s'en trouve écorné. Les hôteliers avaient espéré un chiffre d'affaires stable pour 2016 dans l'Hexagone. Ils prévoient désormais une baisse de 6%. Des perspectives qui nous valent cette exclamation à la une du journal du dimanche. Il faut sauver la destination France. Le JDD nous apprend que la fréquentation des étrangers en juillet a baissé de 10% par rapport à l'année dernière. Une année, il est vrai, qui avait été exceptionnelle. Mais cela dit, les menaces terroristes ne sont pas les seuls éléments explicatifs, relève dans ce même journal du dimanche le fondateur d'un site de voyage. Et il rappelle que la colère des taxis en janvier, les manifestations contre la loi du travail, les grèves des cheminots et des éboueurs pendant l'euro auront aussi bien terni l'image de notre pays. Alors, pour tenter de remonter la pente, eh bien on apprend que le gouvernement met au point un plan de relance.
8h34 sur France Inter, la suite de la revue de presse avec Pascal Dervieux. Tout n'est pas noir, Pascal, dans le paysage estival. Tout n'a pas été annulé, loin de là.
Non, c'est même plutôt le contraire. Sud-Ouest dimanche nous apprend qu'il n'y a jamais eu autant de festivals en France et qu'ils n'ont, malgré tout, jamais attiré autant de monde. Le quotidien bordelais cite quelques exemples. Les Francophonie de La Rochelle, les Eurockéennes de Belfort ou les Vieilles Charrues n'auront jamais réuni autant de monde. Même chose pour les rendez-vous en Aquitaine. Le journal y voit la manifestation de cette volonté du public de ne pas céder à ceux que la culture insupporte. Autre illustration ô combien spectaculaire de cette volonté de ne pas tout céder aux faiseurs de mort, le Télégramme de Brest, tout comme Ouest-France, nous rappelle que Lorient va vivre aujourd'hui l'un des grands moments du festival interceltique, la grande parade de tous les groupes musicaux. Parmi eux, le Bagad Cap Caval de Plomeur, Pour la deuxième fois consécutive, ils ont remporté hier le championnat des Bagadous, cette compétition de très très haut niveau musical entre les groupes traditionnels de Bretagne.
La musique, Pascal Dervieux, l'un ou l'une plutôt des meilleures armes pour lutter contre la peur, avec le sport peut-être.
Oui, et la presse revient bien sûr largement sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio hier. Le journal du dimanche fait en dernière page ce matin un choix bien marqué, celui de s'intéresser aux exclus des JO. Stéphane Joby, l'un des envoyés spéciaux du journal, a passé la cérémonie d'ouverture en compagnie de quelques-unes des 700 familles d'une favela qui avait été rasée, tout simplement, pour bâtir le parc olympique. Alors certes, les familles ont été relogées, mais on ne leur a jamais demandé leur avis. Elles ont perdu dans l'opération leur environnement, leur quotidien, leurs relations. Autant dire que pour elles, la cérémonie a eu un goût très amer. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui accueillent le reporter du JDD ne se donnent même pas la peine de regarder la cérémonie à la télévision, affolées déjà à l'idée de devoir payer pendant longtemps le coût de ces dépenses somptuaires.
Ça, c'est le côté sombre de Rio. Pour le côté lumineux, on peut retenir une silhouette féminine.
Oui, elle est vêtue d'un maillot bleu. Elle court avec un ballon ovale à la main et le sourire aux lèvres. Cette femme, c'est une joueuse de l'équipe de France de rugby à 7. Elle a remporté hier soir, avec son équipe, sa première victoire face à l'Espagne, 24-7. Et sa photo fait partie de la magnifique sélection que nous présente ce matin la une de la Provence. La Provence qui nous rappelle que le sport collectif féminin français a réussi son entrée dans ces JO de Rio, puisque les handballeuses et les basketteuses françaises ont également remporté leur premier match. Il est un autre Français qui aimerait bien remporter la partie à Rio également, ou qui aurait aimé la remporter, ce Français, c'est François Hollande. Le Parisien ce matin nous gratifie d'une photo d'un président de la République française souriant, prise devant les bassins olympiques de Rio, où il était venu vanter la candidature de Paris pour les prochains Jeux. Hollande se requinque à Rio, titre le Parisien, sur un air de samba. Pour tous ceux d'entre vous que le suspense de la possible candidature de François Hollande à sa succession déprime, eh bien, vous avez un moyen radical à nous conseiller. Nous avons un moyen radical à vous conseiller. Ce moyen, il est tout bête, il coûte pas cher et il marche à tous les coups. Ça s'appelle l'amitié. C'est l'hebdomadaire La Vie qui nous le glisse à l'oreille cette semaine. L'amitié, une valeur refuge contre tous les maux de l'existence. La Vie nous en offre une sorte d'abécédaire avec des contributions de philosophes, d'écrivains, de psychologues, d'historiens et même de grands sportifs chez qui l'amitié peut surmonter les rivalités quelquefois. C'est le cas des champions cyclistes Raymond Poulidor et Jacques Anquetil. Après 15 ans de bataille acharnée sur toutes les routes d'Europe, eh bien les deux hommes s'étaient rapprochés et La Vie nous révèle que Jacques Anquetil, se sachant condamné par la maladie, avait lancé à son ami Raymond cette ultime pique juste avant de disparaître. « Je vais partir le premier, tu vas devoir encore te contenter de la deuxième place. » Moi, je trouve ça magnifique.
Et c'était Jacques Anquetil parlant à Raymond Poulidor. Merci Pascal Dervieux, c'était la revue de presse de Pascal Dervieux. On va jeter un coup d'œil du côté du ciel.